penser, enfin, parler est avant tout écouter, c'est que vous entendez en vous des choses que vous allez manifester sous les formes de la parole, et donc que l'esprit également est un effet. Donc, quelque part, au niveau des actes, il n'y a pas la possibilité d'être acteur. Un Shakyamuni dit, des événements se produisent dans le monde, mais il n'y a pas d'acteur. Or, l'acte le plus élevé dans le monde, c'est l'action du Bouddha. Et cette action la plus élevée, c'est Myoho Renge Kyo. Donc le seul moment où vous pouvez enrichir votre existence de l'acte le plus élevé, c'est quand vous récitez Nam-myoho Renge Kyo, alors que quand vous êtes submergé par le flot de vos pensées, vous ne faites qu'être toujours des effets. Et Nichiren disait à ce propos que les humains sont comme des canards décapités qui continuent à courir. Parce qu'ils ne sont pas l'auteur de leur corps, ils ne sont pas l'auteur de leurs pensées, et malgré tout, ils enchaînent des actes qui amènent des conséquences toujours. Tu fais intérieurement, c'est rien. Tu fais intérieurement pour tu fais intérieurement pour montrer que, quelles que soient les circonstances, tu fais quand même Daimoku. Même quand tu ne peux pas. Ouais.
Quand tu parles de l'existence, à l'instant, justement, dans cette phrase que tu as dit, tu disais déjà, l'existence égale vie, donc lorsqu'on pratique finalement, l'existence est bien plus que la vie.
C'est-à-dire que,
parce qu'en fait, on existe toujours, on a toujours existé, on existera toujours.
Oui, c'est ça, mais en tant qu'effet.
C'est l'état de soi.
En tant qu'effet.
Quand on pratique, c'est...
Voilà, on est au-dessus de la vie.
Au-dessus de...
Quand vous pratiquez...
On n'est pas au-dessus des autres, mais on a une certaine sagesse et un certain recul.
Tout doucement, ça apparaît.
Ouais.
Mais sachez que quand vous pratiquez, vous faites apparaître le Bouddha dans un univers de désolation, c'est-à-dire votre vie jusqu'à maintenant.
Mm-hmm.
Donc en pratiquant Nam-myoho Renge Kyo, c'est l'apparition du Bouddha originel au sein même d'un groupe d'effets pollués qui est votre existence.
Mm-hmm.
Vous n'avez jamais rien compris
à ce que vous êtes. Je dis que l'état de soi, mais pas de supériorité, c'est l'état de soi-même, de ce qu'on peut avoir comme
c'est-à-dire que,
réconfort, comme c'est pour nous.
C'est-à-dire que, en pratiquant, vous passez d'un état où il n'y a pas d'être vivant à un état où il y a réellement un être vivant.
Voilà. Voilà,
c'est ça. Parce qu'il n'y a pas d'être vivant dans le monde, parce que nul ne détient le principe de son existence. C'est un effet. C'est comme si vous m'affirmiez en face de moi que avoir des seins, c'est une volonté. Évidemment, non. Avoir un petit cul, avoir un gros cul, c'est comme ça, hein, vous êtes avec. Hein, vous jouez avec les choses qu'on vous a données. Mais qui a donné quoi à personne, c'est vous toujours. Mais vous êtes tributaire de ce qui apparaît en tant qu'effet. Le corps est un effet, la pensée est un effet. C'est toujours comme ça. Bien sûr. Et la pensée est entendue. Qui est-ce qui prononce la pensée qui résonne en vous? La pensée est entendue. Même Heidegger, qui n'a pas inventé la poudre noire, l'a dit. La pensée, c'est entendre. Et vous n'êtes pas décisionnaire là-dedans. Ça apparaît, quoi.
Mais ce que moi j'entends, ce ne sera pas ce qu'entend le
Heidegger. Voilà. Mais ce sera toujours toujours l'enfer, l'avidité, l'animalité, la colère, la joie, des choses qui sont subies. Descartes a écrit un traité qui s'appelle Les passions de l'âme, où il explique là-dedans que les passions apparaissent dans l'individu, mais qu'il n'en est pas responsable. Donc lui, Descartes va dire que, en fait, les passions qui animent les individus, eux n'en sont pas responsables, parce que ça apparaît point, c'est une passion, hein. La passion c'est subir, c'est souffrir, hein. Quand on dit la passion du Christ, c'est la souffrance du Christ, hein. Une passion c'est subir. C'est pas le côté passion, j'aime quelqu'un, machin, mais d'ailleurs on n'est pas non plus responsable. Si on est passionné par un mec, qu'on a rencard avec lui, qu'on arrive une demi-heure avant et qu'on le voit tirer sa copine, on a moins de passion, c'est la colère, le désespoir qui... Voilà, c'est ça. Bon. Donc Descartes avait vu que les passions apparaissent chez les humains, tous sont avides, bêtes, ils courent un peu tout ce qu'ils voient, bon. Mais il a, donc Descartes a dit, comme les humains n'en sont pas responsables, c'est qu'il y a un créateur qui, à chaque instant, envoie des passions à tout le monde. Et puis, donc il a dit, non, j'ai même pas en plus, hein, c'est dans le traité des passions de l'âme, quoi. Et donc Descartes dit que c'est le souverain créateur qui est acteur, alors que les humains sont passifs. Ils ne font que subir ce que Dieu envoie. Puis à un moment, il s'est rendu compte qu'il disait des conneries, parce que si Dieu est d'un côté omniprésent, omniscient, bon, généreux, machin bidule, et qu'il envoie des trucs aux humains qui font que les humains sont comme des cons, quelque part, il y a une différence entre les effets qu'on voit chez des humains, où ils se battent entre eux, ils se tirent leurs copines et tout, bon. Et d'un côté, un Dieu qui est bon, omniprésent, omniscient, qui n'a pour efficace que de rendre le monde lamentable comme on peut le voir. Donc j'ai dit, voilà, vous prenez, parce que là, je vais dire une connerie. Si je dis que Dieu est con, lamentable, dévoré par la haine, tout ça, je vais me faire lyncher par les copains. Donc il s'est arrêté là, Descartes, il a botté en touche, mais oui, Dieu est grand, mais... Non, mais je déconne pas, bien sûr. Vous voulez que je vous raconte un truc de la Bible?
Ah oui,
j'avais
adoré.
Non, parce que Dieu, donc, il crée la ciel, le terme. C'est la Genèse, hein, là, je parle en référence à la pluie. Donc, Dieu crée tout, puis il voit que c'est bon, tout bon. Alors après, il prend de la terre, il fait un homme, et il est content, puis après, il se dit, il va être tout seul, donc il prend une côte de l'homme, et crac, il fait une femme avec. Bon, alors les deux sont là, ben tiens, comme ça, et tout va bien. Et Dieu est content de sa création, il y a le jour, la nuit, les étoiles, bon, tout ça. Et puis, Dieu leur dit, écoutez, là, vous êtes dans le jardin d'Éden, hein, c'est le paradis, faites ce que vous voulez, la seule chose, ne mangez pas des fruits de l'arbre de la connaissance. Piscal, je sais pas où, je vais faire ses cours souvent. Et puis, alors les autres qui regardent l'arbre de la connaissance, comme ça, ils disent, ah bon, l'arbre de la connaissance avec des fruits, là, Ève, bien sûr, le diable, le démon, le serpent. Elle se pointe, elle voit un serpent qui lui dit, tu peux goûter, c'est vachement bon, alors elle croque la pomme, hein, ou le fruit, je sais pas. Elle appelle Adam, elle dit, goûte-moi ça, c'est vachement bon, alors il goûte, là, il dit, oh, c'est bon. Et à ce moment-là, ils réalisent qu'ils sont à poil, les deux. C'est-à-dire qu'ils étaient dans un état, tu sais, comme les singes ou les baobabs, tu vois, ou les, bon, n'importe qui sait pas qu'il est à poil, comme ça, ils sont normaux. Et ils bouffent l'arbre de la connaissance. Et la différence entre la connaissance et le manque de connaissance, c'est quoi? C'est que tu reconnais qu'il y a quoi, là. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des feuilles de vigne, ils se bricolent un slip chacun, comme ça. Puis hop, ils attendent Dieu. Alors, Dieu arrive, puis ils regardent avec leur fringue en feuilles. Et Dieu dit, vous avez mangé les fruits de l'arbre de la connaissance. Oh, les autres, c'est sûr. Et non, je déconne pas. Et qu'est-ce que fait Dieu? Et donc, il leur enlève leur fringue, le pelage, machin, et il leur fait des slips. Il leur dit, dorénavant, vous caletez du paradis, vous devrez enfanter dans la souffrance, vous aurez la poussière plein les yeux, vous pourrez travailler pour gagner votre pain, machin, donc comme ça. Bon, je passe les détails du reste, mais enfin, à 2 ou 3 reprises, il élimine toute la population, parce qu'ils sont méchants. Donc ils se rendent compte qu'il a fait une création qui foire complètement. Et après, il cherchera tout le temps à avoir un appui, un mec qui l'écoute, et il fondera des familles là-dessus, et c'est vraiment une catastrophe. Une catastrophe de bêtises. Alors après, on vous parle de la, comment on dit, c'est un euphémisme, on parlera de la limpidité biblique. C'est pas que c'est limpide, c'est que c'est complètement con. Non mais essayez, lisez la Genèse, hein. C'est pas moi qui l'ai écrite. Ils ont mis 1000 ans à l'écrire, ils sont mis à plusieurs. Hein, mais je... Si, il y a une parole fausse dans ce que je viens de dire, on me dit que je rembourse la différence. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Donc, point de ces superstitions. Vous allez adorer mon prochain ouvrage qui s'appelle Antiphilosophie. Vous allez rire, hein, vous allez voir. Donc on arrête ou encore un truc sérieux? Tiens, il marche. Il est 9h30 déjà. Ça fait tard ou quoi?
Un petit peu sérieux, ça va finir tard. Si on sort en rigolant, ça va pas.
Donc alors, le Daishonin explique à propos du Hanzong devant lequel on pratique. Il dit que le Hanzong qui est défini dans le chapitre durée de la vie est le Bouddha, au triple corps sans artifice, existant à l'origine, ayant un lien profond et étroit avec cette terre, depuis avant le passé infini. Donc lorsque vous pratiquez devant le 11 ondes, considérez bien que c'est le corps du Bouddha que vous avez devant vous. Hein, et que ce corps du Bouddha, parce que, comment dire, de la même manière que le 11 ondes c'est du papier et de l'encre, vous-même n'êtes fait que de flotte, de terre, de feu, de vent et d'espace, hein, comme le 11 ondes. Donc il n'y a pas de différence entre vous et le 11 ondes quant à les proto-matériaux qui sont utilisés pour le faire. Vos matériaux à vous font l'état d'habilité, de stabilité, de colère. Les matériaux là réunis sont le Bouddha. Que vous ne puissiez le voir du premier coup, lui serrer la main, c'est votre problème, parce que vous ne voyez rien du tout. Mais c'est comme ça. Donc il dit, c'est le Bouddha Shakyamuni, qui a un lien profond et étroit avec cette terre, depuis avant le passé infini. Donc comprenez bien que, depuis avant le passé infini, c'est juste utiliser des mots humains pour faire comprendre que c'est pas ça. Depuis avant le passé infini. Donc le souverain de la loi va dire, dans cette phrase définissant le Honzon, nous lisons, depuis avant, et également triple corps sans artifice existant à l'origine. Donc il dit, ces expressions laissent penser à une présence permanente située avant le passé infini. Bon. Toutefois, dit-il, si l'on se réfère aux expressions existant à l'origine ou sans commencement, on peut alors considérer le passé infini comme existant en permanence depuis le sans commencement. Autrement dit, tout ce qui est le passé infini. Pourquoi? Parce que le temps n'existe pas. Et parce que la présence est permanente. D'accord? Donc il dira ensuite que la substance fondamentale de la loi, c'est Myoho-Rangekyo. Autrement dit, la simultanéité de la cause et de l'effet. C'est ça qu'on doit essayer de percevoir en nous. Nous sommes la simultanéité de la cause et de l'effet. Cette substance, c'est Myoho-Rangekyo. Donc il dit, dès lors, la une pensée instantanée, donc la vôtre, à chaque instant, la une pensée instantanée correspond-elle qu'elle à l'éternité sans commencement? Cette une pensée existe elle-même à l'origine, elle est présente en permanence, et est sans commencement ni fin. Autrement dit, vous ne pourrez jamais échapper au fait d'avoir un corps et une pensée. Autrement dit, il n'y a pas de point de départ de la conscience de. Il n'y aura jamais de point d'arrivée ou de fin de la conscience de. Contrairement à ce que voit l'humain qui voit apparaître et disparaître les êtres et les choses, cela n'existe pas. Vous aurez toujours, vous serez toujours un corps et une pensée en même temps, parce que c'est pas deux, c'est un seul. C'est ce qu'enseigne le Bouddha. Donc, alors que des abrutis d'humains débattent sur ce qui est objectif et subjectif, avec des grands mots, n'est-ce pas? Comprenez bien que le sujet ne peut être que subjectif, donc que vous ne pouvez jamais voir la réalité en tant que ce qu'elle est, et que le seul moment où vous échappez à ce que vous avez toujours subi, c'est quand vous produisez quelque chose qui est supérieur à ce que vous êtes, et ce qui est supérieur à ce que vous êtes, c'est l'éveil. Pour le reste, habilité, stupidité, colère, joie, tranquillité, ça, tout le monde y arrive tout le temps, c'est pas difficile, il suffit de se laisser porter par les flots des choses. Et le seul moment où votre vie est grande, c'est quand vous faites apparaître le Bouddha en vous, alors que sur le principe, vous ne pourriez pas le faire. Sans rencontrer la loi, il n'y a pas de possibilité de le faire. Ça, c'est la bienveillance du Bouddha qui apparaît, distribue la loi, l'enseigne, tout ça, machin.
Sans, par exemple, sans pratiquer, même quand on dit la première fois Nammyo Renjicho, on sent un apaisement. Et on sent la pensée qui va ailleurs et qui n'est pas... On pense à autre chose qu'à notre propre pensée.
Eh bien, c'est bien que tu sens ça aussi vite que ça, parce que tout le monde n'y arrive pas aussi vite. Hein.
Moi, je l'ai dit à Nancy quand j'étais mal et que j'allais travailler, je me dis cette phrase, et ça me faisait du bien. Je sentais un apaisement en moi et puis de me ressourcer. Et je l'ai dit à Nancy et j'ai complètement vu... ma vie au travail et ma vie changée.
Et c'est gratos. C'est bon.
Et alors c'est drôle, parce que j'étais catholique, et quand j'ai commencé à voir Paul et avec Nancy pratiquer, quand je suis rentrée dans une église, le dimanche, il a fallu que je ressente, je n'ai pas pu.
Ah bon, alors moi, tu vois, c'est marrant, parce que c'est presque contraire. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, je rentrais dans une église, je ne ressentais rien. Et là, par contre, je suis rentrée dans une église hospitalière, mais j'ai ressenti quelque chose et je me suis dit, bah, finalement, il y a quelque chose qui nous lie. Et les croyants catholiques, en fait, ils viennent chercher dans cette église la même chose que ce que moi, que j'essaye d'atteindre. Mmh. Voilà, donc il y avait comme une connivence.
Mais tu pratiquais tandis que moi, j'allais à l'église de temps en temps, à la mort de mon père, à la mort de mon frère, et
là, ça a
j'étais vraiment, bon, je ressentais rien, malgré mes croyances. Mmh. Et bon, mais j'y allais pour me donner bonne conscience et parce que je faisais une prière pour mon père. Et à partir du moment où j'ai pratiqué le Namigyo Rengetsu, je suis rentrée dans l'église et je te l'ai dit, donc il a fallu que je ressorte aussi de j'avais comme une angoisse. Rien ne voulait plus rien dire.
Je vais terminer sur quelque chose d'assez simple, mais qui me semble utile. Quand vous êtes dans une situation de désarroi ou un groupe proche dans le désarroi, spontanément, la réaction, si vous êtes croyant, ça va être de formuler une prière. Offrir un cierge, machin, formuler une prière pour que ceci se passe, ou que ceci arrête de se produire, bon, ce que vous voulez. La raison pour laquelle les prières, pour l'humain, n'ont aucune efficace, c'est parce que les mots utilisés ne reposent que sur le sens. Hein? Vous allez dire, s'il vous plaît, madame, j'offre deux cierges aujourd'hui, et c'est pour qu'un tel ou une telle arrête d'être méchant avec moi, ou qu'elle guérisse, ou que je guérisse moi, ou je ne sais pourquoi, que la guerre s'arrête, parce que bon. Mais la prière est sans efficace pour la bonne raison que ce n'est que le sens des mots qui est déployé. Alors vous déployez bien un corps vocal, intérieur ou extérieur hors de vous, mais ce corps vocal n'est riche que du sens. Or le sens, c'est quoi? C'est le sens des mots. C'est le sens que vous attribuez aux mots. Or, c'est rien parce que en Ouzbékistan, pour les mêmes demandes, le corps vocal sera autre. En Chine, pour les mêmes demandes ou similaires, le corps vocal sera autre. Et toujours, ce sera le sens qui sera véhiculé par les mots auxquels les gens attacheront une importance. Et ils auront l'impression d'exprimer leur cœur à travers des mots qui portent un sens. Mais tous ces sens et ces mots, les sens seront les mêmes, mais les mots seront différents selon les endroits et le temps. Voyez-vous, donc il y a une cacophonie qui n'a aucune efficace. Qu'en est-il chez nous?
Efficace.
C'est plus beau.
Efficace.
Oui, c'est plus beau. C'est bien sûr. J'ai vérifié, t'imagines bien. J'oserais pas, sinon. Si, les choses sans efficace, c'est plus beau. Je trouve. Donc, pour ce qui nous concerne, nous, la chose est différente. Le sutra du lotus, c'est l'expression de l'enseignement du Bouddha Shakyamuni. Autrement dit, son état de vie, il l'a traduit par des mots. Dans ces mots, il y a un sens à travers les phrases, bien sûr. Mais, cela dit, les mots, eux, sont des choses qui apparaissent et disparaissent, puisque c'est provisoire, le papier s'use, machin, c'est bon. Et le sens, c'est encore une chose aléatoire, parce que quiconque lit va comprendre une chose, le relisant 2 ans après, il verra un peu mieux le sens, puis ainsi de suite, puis chacun met le sens qu'il veut sur les choses. Si l'on considère que Namgyo Rengekyo que l'on récite, c'est le titre du lotus, c'est vrai, parce que en Inde, on disait Saddharma Pundarika Sutra, en Chine, on prononçait Miao Talien Itsin, au Japon, on prononce Namgyo Rengekyo, donc on peut croire que Nyurlengekyo, c'est la traduction vocale japonaise de caractères chinois qui sont une traduction d'un sanskrit qui est Sadar Pundarika Sutra. Mais Nichiren dit la chose suivante. Les 5 caractères de Nyurlengekyo ne sont pas les phrases du sutra, ils n'en sont pas non plus le sens, ils en sont uniquement le cœur, c'est-à-dire l'état dont provient l'enseignement. Autrement dit, Nyurlengekyo est l'éveil. Donc, quel que soit le sens qu'on veut attribuer aux mots, et on pourra faire des cours, si vous le souhaitez, à la rentrée sur Myo Rengekyo pendant 6 mois, si le sens est éminemment riche, ce qui importe, c'est pas le sens, c'est pas les mots, c'est que c'est l'éveil en tant que tel. Donc, autrement dit, aucune prière n'est efficace, si ce n'est de faire apparaître le Bouddha en tant que corps. Parce que vous produisiez des mots, ça va faire aussi des corps phonétiques. Mais ces corps vont se perdre sans avoir aucune réalité. Ainsi, on va dire de toutes les prières prononcées par les êtres.
Alors moi, ça me touche beaucoup ce que tu dis.
J'espère.
Dans cette église,
oui.
Ce que j'ai naturellement prononcé, c'est la bénédiction.
Bah, c'est mieux pour tout le monde.
Tu vois, et j'ai brûlé le cierge, mais j'ai prononcé la bénédiction.
Oh, ce sont des où je passe.
C'est mieux.
C'est
mieux. Parce que vous voyez,
c'est
communauté
de
ce sont pas les mots du sutra, c'est pas le sens, c'est le cœur. Donc c'est l'état directement. Et Nichirendi, les sutras du petit véhicule, ceux du grand véhicule, ainsi que le sutra du lotus, existent en tant que mots, mais ne peuvent pas constituer un remède aux souffrances des êtres. Pourquoi ? Parce que les maux des êtres, les souffrances des êtres sont graves, et que le remède est faible. Donc, comprenez bien. Provenant de l'éveil du Bouddha, il y a les maux et leur sens. Ce sera du lotus ou les autres sutras. Mais si on lit les maux et si on comprend le sens, eh bien, l'individu ne peut pas remonter jusqu'à l'éveil. Donc, bien que les maux et le sens viennent de l'éveil, il n'y a pas de retour possible parce que l'individu, selon son intelligence et sa pratique, pourra comprendre un petit peu, interpréter ceci, cela, machin. Donc, ça ne constitue pas une possibilité d'aller-retour. Par contre, Myoho-Rinpoché est l'éveil. Donc, même sans en comprendre le sens, on produit un corps qui est le corps du Bouddha. D'accord ? On va terminer là-dessus maintenant. Nichirendi, il n'est pas de production dans le principe de réciter à haute voix Nam-myoho-renge-kyo. C'est directement l'éveil. C'est pas une production en vue de. Hein, c'est l'apparition de l'éveil tout de suite. Et il continue en disant, l'originel est la loi merveilleuse du passé infini au degré de dénomination. Si on récite Nam-myoho-renge-kyo avec une foi forte, sans aucune autre pensée, alors le corps de l'homme ordinaire est le corps du Bouddha. C'est ce qu'on nomme l'éveil dès ce corps par la clarté, obtenu seul et naturellement. Autrement dit, la sagesse qui apparaît spontanément en vous. D'accord ?
Ça veut dire oui. Quoi, Nam-myoho renge-kyo ?
Ça, c'est le sens. Donc, le sens, on passera, si vous voulez, plusieurs mois à la rentrée dessus.
Ce qui veut dire qu'on peut aussi atteindre l'éveil, si on parle en termes de temps à notre propre pays, mais après, à partir du moment où on arrête de pratiquer, de le dire, ça disparaît de nouveau.
Non.
Ça disparaît
pas.
Il paraît qu'on a dit la phrase.
Si. Mais tu verras, c'est facile. Tu pratiques et t'as la vie quotidienne qui apparaît, machin, où tu résistes, où tu luttes, où tu ne peux pas monter sur les pieds, donc tu vis plein de choses. Dans les cas choses importantes, tu vas pratiquer plus. Tu vas dire, putain, je vais mourir ce coup-ci, bon, c'est normalement. Et alors tu te dis, cherche-toi, demande-toi, comme tu flippes, tu dis, bon, je suis con et j'arrive à rien. Quand tu te mets devant le hands-on, et tu dis, c'est quoi, tu pratiques 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou 4 heures, ou 5 heures, ou 6 heures, ou 7 heures, ou ce que tu veux. Et à un moment, il y a un truc,
ou
5 minutes. Et à un moment, il y a un truc qui s'effondre en toi, comme un barrage avec l'inondation qui suit, toi. Ça, tu le vis une fois, ça reste dans ta vie tout le temps. Ça ne peut jamais disparaître. Et plus ça va, plus tu accumules la clarté. Ou plutôt que de dire accumuler la clarté, augmenter la clarté, plutôt. Pas penser en termes d'accumulation. Et ça, c'est ce qui se passe, ouais. Et ta vie, en fait, parce que dans le bouddhisme, une fois qu'on a entendu la loi, c'est le premier état au-dessus des 6 voies ordinaires, c'est entendre le Bouddha, entendre la loi. L'état d'après, c'est l'éveil par les facteurs, donc c'est les petits éveils, donc c'est ce que vous devez vivre, vous, en pratiquant.
Et cet éveil, tu le sens et tu le vis uniquement, forcément, en pratiquant. C'est-à-dire, il n'est pas possible d'imaginer que quelque chose se passe, selon ce que je viens de décrire, à un autre moment. Par exemple, via un rêve, via quelque chose. C'est un petit peu orienté, effectivement.
Il y a d'un côté le cycle des 6 voies, qui n'a pas d'origine. C'est-à-dire que tout tourne sur lui-même, et au plus haut degré de l'état de divinité, on retombe dans la souffrance, l'enfer, l'angoisse, bon machin, donc tout cela est complètement fermé. Ça n'a pas de point de départ. La seule émergence d'une issue, c'est le fait d'entendre la loi du Bouddha, et de commencer à la pratiquer, et de s'éveiller graduellement, et d'obtenir l'éveil. Quand il s'agit d'individus qui en dehors d'une condition où l'enseignement du Bouddha est véhiculé par le Bouddha ou par des textes, en dehors de ça, quand il y a des individus qui spontanément ont un éveil partiel, c'est le cas de Nietzsche par exemple, eh bien, c'est parce que antérieurement, ces liens avec le Bouddha a été créé. Donc toujours, ça intervient du fait de l'enseignement du Bouddha, parce que dans les six voies, c'est fermé. Il n'y a pas d'issue. Le seul fait de sortir des six voies, c'est entendre la loi. C'est la seule opportunité.
Mais Nietzsche en a eu des enfants,
ou pas? Ah, quand il a été traversé par une fulgurance tellement forte qu'il s'est effondré à genoux en pleurant, alors qu'il y avait du monde autour et tout ça, comme ça, et qu'il est resté plusieurs jours après à pleurer continuellement, et puis à sortir de lui des écrits, il s'est bien rendu compte que c'était passé un truc. C'est comme s'il avait
heurté.
Ah oui. Ah bah oui. Il dit, je suis l'éveillé. Je suis celui qui fait sortir les êtres du courant des vies et des morts. Ah bah oui, non, oui. C'est très clair, très clair. Août 1881. Près d'un lac. Ça va venir, mon petit chou, t'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va revenir. Mesdames et messieurs, à plus.